Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous voyez bien que Paul émet une reconnaissance fondamentale, une reconnaissance formidable pour toutes les bénédictions qui sont dans le ciel. Donc le lieu de tout ce qui vient, qui nous bénit, vient du ciel, déjà. Ça, c'est fort important, les amis, de reconnaître ce fait. Sur terre, depuis le péché, il reste des bénédictions naturelles. Je viens de vous en parler. Mais il y en a beaucoup dont on est privé. Cultiver la terre n'est plus agréable, accoucher d'un enfant n'est pas agréable, la maladie n'est pas agréable, la mort n'est pas agréable. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été retirées du fait du péché d'Adam et Ève et du fait de la sanction de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y a tout de même énormément de bénédictions sur cette terre, bien qu'on en ait perdu. Et la fondamentale, celle qui est venue de Dieu, c'est son amour, incarné en Jésus. Éphésiens chapitre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, tout de suite Jésus est désigné, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Fondamentalement, si vous lisez régulièrement l'Évangile et que vous priez, vous découvrirez dans les trésors contenus en Jésus des sujets de bénédiction. Vous verrez que Jésus est une bénédiction pour celui qui l'aime, pour celui qui croit en lui, pour celui qui le fréquente. C'est la source fondamentale de toute bénédiction éternelle. Et béni, c'est-à-dire c'est une action de grâce. Verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors Paul explique que ce n'est pas un accident, cette venue de Jésus. C'est depuis toujours, par amour pour nous, avant qu'on existe, avant que la terre n'existe, les étoiles n'existent, que le Christ a été destiné pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. Dans Genèse, chapitre 1, verset 3, il est dit « Et que la lumière soit ». Le mot en hébreu n'est pas « bara », c'est pas mis « que la lumière soit créée », c'est « que la lumière soit manifestée », que la lumière soit dévoilée et donnée à toute la création. Donc la vocation de Christ n'est pas seulement de venir sur terre parce qu'il y a eu le péché d'Adam et Ève et notre péché, donc œuvre de rédemption si vous voulez, mais il est venu parce qu'il est le fondement de notre vie. Dès avant le péché et de toute éternité. Et donc, nous ayons prédestiné dans son amour, verset 5, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, suite au péché, nous sommes perdus, nous sommes sans relation avec notre Père, nous ne le connaissons plus, et nous les humains, et pratiquement, il faut être adopté. Adopté. Et qui a fondé l'orphelinat et qui le dirige? C'est Jésus-Christ. L'orphelinat, c'est l'Église. Et vous voyez que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, il n'est pas obligé, il n'était pas contraint. Mais c'est un plaisir qui est bon. C'est un plaisir fondamentalement agi par, motivé par la bonté. Chez nous, le bon plaisir, je fais ça parce que j'aime bien de le faire, mais ça, je n'aime pas de le faire, je le fais à moitié, de travers, ou je ne le fais pas du tout. Ça, ce n'est pas de bon plaisir. Chez Dieu, ne mettons pas ce mot-là sur notre registre. Le bon plaisir, c'est le plaisir de sa bonté. Sa bonté est éternelle et infinie. Et il a toujours un immense plaisir, un immense bonheur à aimer. Sans variation. Sans variation. À la louange de la gloire de sa grâce, vous voyez donc la grâce de Dieu de nous aimer et de venir nous sauver en Jésus-Christ. À la louange de la gloire, c'est une grâce sans défaillance, sans limite. Nous, tout ce que nous faisons, ce n'est pas toujours rempli de gloire, hein? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Regardez à quel point Paul abonde en mots majestueux pour désigner ce qu'il ressent, ce qu'il connaît de Christ. C'est incommensurable la richesse de Christ. C'est incommensurable ce qu'il y a en Dieu. Et Paul, qui était une véritable crapule, qui tuait au nom de Dieu, eh bien, s'est rendu compte que ce Jésus de Nazareth et son père l'aimaient en l'arrêtant sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Les amis, combien de fois avez-vous admis dans votre vie que vous avez fait du mal à Jésus en n'ayant pas fait ce qu'il désirait? Combien de fois avez-vous dit au Seigneur, « Seigneur, je t'ai persécuté, je t'ai fait du mal, je t'ai blessé dans ton amour. » Et je dirais encore plus, les amis, combien de fois, tout seul, en avez-vous pleuré? Je pense que la richesse de la relation avec le Christ, c'est de savoir à quel point est grand son amour et à quel point nous sommes peu reconnaissants, à quel point nous sommes désobéissants. Et que lui, son amour reste constant pour moi, pour vous. Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, il éveille en nous la sagesse et l'intelligence. Ben oui, forcément, parce que comment voulez-vous ? On a un petit cerveau. Et là-dedans, il y a une âme. Ben, elle est tellement dévoyée par le péché d'Adam et Ève, et le nôtre, qu'il faut quand même lui donner de la sagesse et de l'intelligence. Vous avez entendu tout à l'heure dans la prière, le petit Élie qui demandait la sagesse. Ben, s'il la demande toute sa vie, il va faire porter beaucoup de fruits. Hein. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même. Tout réside dans l'intelligence divine, dans la qualité de son intelligence et dans la qualité de son amour. Il faut prendre du temps, non pas pour prier pour soi parce qu'on a des problèmes, prier pour soi parce qu'on en a marre, prier pour soi parce qu'on est malade, prier pour soi pour ci, pour ça. Ça, c'est une partie de la prière. Il faut prendre le temps de prier pour connaître, pour se laisser conquérir par l'amour du Christ et le connaître et découvrir son dessein bienveillant et l'apprécier. L'apprécier, les amis, c'est ça la force et la richesse d'un chrétien et d'une chrétienne. Voilà, quand vous continuerez à lire jusqu'au verset 14, c'est magnifique. Et évidemment, je ne peux pas faire tout le commentaire théologique de ce passage, toute la Bible est résumée dedans. Mais regardez bien au verset 12, que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'avance on a espéré en Christ, c'est-à-dire, sans le savoir, notre âme était préparée par Dieu pour s'accrocher à Christ, pour l'aimer, pour le connaître. Et ça correspond bien sûr au merveilleux dessein bienveillant de Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, la reconnaissance devient, quand elle est pratiquée honnêtement et durablement, elle développe un esprit de service à l'égard de Dieu. Elle développe un esprit d'offrande à Dieu. Un esprit de générosité et d'abandon. Et donc de connexion, de communication à Dieu, et de transparence, de pureté envers Dieu. Donc la reconnaissance spirituelle est une clé essentielle de la vie chrétienne. Il n'y a rien de plus triste, moi, quand je vois quelqu'un qui se traîne dans la prière toujours pour ses problèmes. La prière, pour les problèmes, c'est 10% de tout ce qu'on doit faire dans sa prière. 10%. Parce qu'il n'y a pas besoin de répéter 200 fois à Dieu ce qu'on a besoin, il le connaît. Et puis il n'est pas sourd et il n'est pas amnésique. Pourquoi le répéter 2000 fois Donc, ce qu'il aime, c'est de savoir quel type de relation j'ai avec lui, si je le connais vraiment. Dans un couple, quand on vit ensemble, on finit par se connaître vraiment ou s'ignorer vraiment. Entre les deux, souvent, mon cœur balance. Colossiens, chapitre 1. Tout à l'heure, j'entendais que Jésus était monté au ciel et qu'il était à droite du Père. Il était à droite du Père. Hein? Donc, son Père, Dieu le Père, était à gauche de Jésus dans le ciel. Quelle place essentielle. Que Dieu mette Jésus à la place éminente. La place éminente d'un fils qui a toujours été reconnaissant, qui a été dans la montagne toutes les nuits, prier, qui a toujours rendu gloire à son Père, qui a cherché sa volonté. Et nous. Il faut faire attention. Nous ne sommes pas des chenilles. Nous ne sommes pas nés pour nous traîner sur la terre avec une âme qui se traîne. Nous sommes faits pour élever notre cœur et nos pensées vers Dieu. Alors, Colossiens, chapitre 1, verset 12. Colossiens, chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, non seulement j'aime Dieu, je me tourne vers le Seigneur, je sais que le Seigneur a prévu pour moi une vie éternelle formidable de relation avec lui, mais c'est qu'en fait, je ne suis pas seul avec Dieu. Et oui, c'est pas quelque chose de tout à fait égoïste, hein? C'est plutôt quelque chose de très partagé. Vous savez, en Dieu, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Déjà, il n'y a rien d'égoïsme. Tout est échange, amour, réciprocité et altérité en même temps. Reconnaître le sens de l'un et de l'autre entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, les saints, ceux qui sont qui ont un cœur vraiment Dieu, pour Dieu, découvrent l'amour qu'il y a de Dieu pour des autres saints, au ciel et sur terre, et l'amour de ces saints, de ces personnes-là, pour Dieu. La contemplation de l'amour de Dieu fait aussi qu'on entre dans la contemplation de l'œuvre de l'amour chez les autres pour Dieu. Donc, je vais dire que la reconnaissance et l'action de reconnaissance et d'adoration engendrent un cœur non égoïste, non narcissique, engendrent un cœur ouvert. Ça illumine, ça ouvre et ça fait sauter les barrières du petit jeu que le diable veut toujours donner. Colossiens 1, 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Quand des bananes viennent d'Afrique, elles viennent en avion ou en bateau. Elles sont pas venues toutes seules à pied. Hein? Quand une boîte de petits pois vient de SB, dans la grande campagne où on cultive ça, avec des gros tracteurs, des grosses machines, des centaines de tonnes de petits pois, et que c'est distribué dans des boîtes, les boîtes partent dans des camions partout. Et ce n'est pas les petits pois qui arrivent sur la table en Bulgarie, en Roumanie ou en Chine. Hein. Non. C'est le transporteur qui a assuré l'arrivée des petits pois sur la table. Et donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés, le transporteur divin, qui s'est chargé d'aller nous chercher et de nous amener auprès de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Il y a tout un transport, il y a toute une intelligence de Dieu pour nous avoir amenés jusqu'à lui. Et il y en a dont le transport dure longtemps, qui est interrompu, qui est détourné, etc. Regardez l'image dans le désert des Hébreux. Hein, quand on regarde le premier chapitre de Deutéronome, il fallait 11 jours pour faire ce chemin-là, et quand on regarde Exode et Nombre, 43 ans. 43 ans au lieu de 11 jours, les amis. Considérez ces chiffres-là pour chacun de nous. quelle est la durée de mon transport vers le Seigneur? Eh oui. Et pourquoi? C'est Dieu qui a voulu que ça traîne? Peut-être bien que certains péchés sont tellement à régler et que j'ai la tête dure que oui. Dieu me fait retourner vers le sud dans le désert, etc. Et puis il y a même des serpents vénéneux. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que Dieu n'a pas voulu simplement que j'aille en arrière. Et donc le transport est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut bien analyser pour chacun de nous. Il faut bien se connaître dans ce chemin avec le Seigneur. Pas pour soi-même, hein. Pour dire, Seigneur, j'ai plus envie que tu perdes du temps avec moi, j'ai envie d'aller au centre, en direct. Dis-moi, fais-moi comprendre tous les jours, à tous les moments, quel est l'essentiel pour toi. Et comment je dois être en bon rapport avec toi. Et donc la reconnaissance en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et bien sûr la reconnaissance, s'ajoute la connaissance, dans reconnaissance il y a connaissance, il est l'image de Dieu invisible, iconos, hein. Le prénom Véronique ça vient des, hein, Vera iconokos, l'image de la vérité, mais l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, prototokos, celui qui a le droit d'aînesse, hein. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Je suis créé pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quand mettez-vous dans toutes les conditions que vous voulez, mais moi, quand je suis né d'un père qui avait fait la guerre et d'une mère qui avait vécu dans une famille qui avait souffert de la guerre, eh bien, ils avaient le jour du mariage 35 francs belges, même pas un euro dans la poche. Hein? Il y a combien de gens sur la terre qui se marient, ils n'ont pas d'argent? Nous, toujours ici, on prétend qu'il faut de l'argent pour pouvoir se marier. Ah, on se mariera plus tard parce qu'on n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que c'est de ça? Mon père et ma mère se sont mariés, ils avaient 35 francs belges. Alors, pratiquement. 9 mois après, cric, crac, hein, 9 mois après, un garçon. Accouchement, 5h du matin, 5h du soir, 12h. 12h dans lesquelles la mère et l'enfant ont manqué de mourir. Cette épreuve-là fait réfléchir. Et la mère, et le père, et l'enfant. Ah, l'enfant, il comprend rien. Il sort du ventre, il ne sait rien. Mais c'est faux, ça. Moi, j'ai toujours été marqué dans ma vie par la certitude que je vivais et que je devais mourir. Or, je rencontre des gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Pas plus que la vache qui est dans le pré. C'est quand même drôle. Alors, les amis, nous sommes créés pour lui. Et moi, j'étais certain, à l'âge de 4 ans, quand j'étais malade dans mon lit, avec la fièvre typhoïde, si quelqu'un connaissait Dieu et priait pour moi, je m'en sortirais aujourd'hui de cette foutue maladie. Je voyais des flammes, du feu et tout. J'étais cerné de toutes parts et je savais que je risquais de mourir. Si je m'en sors, je chercherai Dieu, même si les autres ne cherchent pas. Je sais que maintenant je peux mourir et que Dieu a la réponse. À 4 ans et demi, 4 ans, tac, le lendemain je guérissais. Il y a des mises en demeure dans notre vie qui ne dépendent pas de l'âge. Elles dépendent de la leçon qu'on tire, quel que soit l'âge qu'on a. Quel que soit l'âge qu'on a. Notre sagesse dépend des leçons qu'on tire des événements. Eh bien, je savais que je vivais pour Dieu et je ne pouvais pas me passer. Autrement, c'est une aventure qui va tourner mal. Parce que dans la vie, ce n'est pas une fois qu'on manque de mourir. Hein. La maladie revient souvent. Il y a la voiture, il y a les avions, il y a tout. Hein. Il y a l'hostilité de certains, etc. dans les pays. Donc nous sommes créés pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui la sécurité, c'est lui l'amour qui peut me garder. C'est lui le Seigneur qui peut me garder. Jusqu'au jour où je suis face à face avec lui. C'est lui qui peut me garder, me faire développer en moi un espace, un lieu où je le connais. Mon âme s'ouvre, grandit. Il m'a fallu cette fichue maladie qui n'était pas marrante pour clac, serrer sur le bouton. Mais l'accouchement, l'âme est là. Même si on n'a pas les mots pour parler, pendant 12 heures, l'enfant sait qu'il va mourir ou qu'il risque de mourir. Comme la mère, elle le sait aussi. Et tout ça s'est inscrit. Et tout d'un coup, ça jaillit. Ça jaillit à 4 ans et demi. Pour chacun de vous, vous avez un moment, il y a des moments où il y a des choses qui se sont passées. Laissez-les jaillir pour être avec Dieu plus en vérité. Laissez-les jaillir. Et la reconnaissance sera toujours plus grande. Regardons le chapitre 2, verset 6 de Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Donc nous avons vu au début de Colossiens, au chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et ici, au chapitre 2, nous voyons, au verset 6, qu'il faut abonder en actions de grâce et qu'il faut marcher en lui. Donc il y a un engagement. L'action d'être reconnaissant s'accompagne d'un engagement. Une reconnaissance sans engagement, c'est comme dans un couple. Oh, tu es gentil. Oh, tu m'as amené des bouquets de fleurs. Oh, ça me fait plaisir. Oh. Et puis, aussi vite fait, aussi vite oublié, il y a la vaisselle sur la table à ranger. Il y a un coup de torchon à donner. Il y a le frigo à nettoyer parce qu'il est crasseux. Il y a le jardin à faire. Il y a ci et ça. Oh, mais ça, non. Ah, mais oh, oh chérie, ou oh, chérie, comme tu m'aimes. Mais la reconnaissance avec. Sans suite dans les comportements, ça s'appelle du cinéma ou la mascarade. Ça finit par écœurer l'autre et puis on s'étonne qu'un jour il est parti. Ou on s'étonne qu'il attrape un caractère de chien ou de chienne. En Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Son caractère et son amour ne sont pas variables. En Dieu, il n'y a pas d'amertume. Et il peut toujours nous aimer, quoi que nous ayons fait l'ingrat, l'horrible ingrat pendant des années à son égard. Sa miséricorde est infinie. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, après avoir péché lourdement, « Oh, je ne suis pas digne d'aller vers Dieu. Il ne me voudra plus. J'ai fait tellement de mauvaises choses. Oh, c'est pas possible. » Alors là, c'est encore un autre problème. C'est le diable qui tient la personne. Elle ne va pas avancer vers Dieu à cause de ça. À cause de l'accusation, l'accusateur de nos frères qui met le doigt, le fer rouge sur la conscience. Quand on est vis-à-vis de Dieu qu'on a péché, on demande pardon. Mais on compte sur son amour. On compte sur son véritable amour. Et il est entier. « Viens, dépose ton fardeau à mes pieds, je suis doux et humble de cœur. » Mais le diable dit « Nya, tu as déjà demandé de pardon 5 fois, il ne t'a jamais pardonné. Recommence. » Hein ?« Recommence. Tu ne seras jamais ci, tu ne seras jamais ça. » Alors le diable, il se frotte les mains, parce que celui-là ne sera jamais pris convenablement, il ne pourra jamais s'engager convenablement. Il va se traîner lamentablement sur une chaise au fond de la salle de culte ou devant, peu importe, chanter 3 chants, et il ressort dans un état pitoyable jusqu'au dimanche d'après. S'il vient encore au culte ou à la messe, toute sa vie, ça dépend. Parce que le diable sait bien remuer la conscience en disant « c'est pas possible, Dieu ne peut pas t'aimer avec tout ce que tu as fait. Regarde-toi donc. » Si on sait qui est Dieu, on y retourne. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Vous voyez, l'apôtre Pierre, quand il est en train de pécher et qu'il s'est dégonflé, il a trahi, il ne retourne pas vers Jésus. C'est Jésus qui retourne vers lui. C'est Jésus qui va le chercher. Pierre, m'aimes-tu? Donc, à un moment donné, il arrive aussi qu'on ne retourne pas vers Dieu et que Jésus va faire des signes et va venir vers nous. Sachez bien que si Jésus vient vers nous, qu'il fait des signes, après avoir eu de lourdes vies de péché ou de trahison, même après avoir connu l'Évangile, si Jésus revient vers nous, là, il ne faut pas trop jouer. Là, il faut se dire, c'est le bon moment, Seigneur. C'est important. Il faut pas se moquer de Dieu, là. Dans ce cas-là, c'est très précis. Et souvent, un bon conseil de quelqu'un qui connaît Dieu, qui l'aime beaucoup, peut aider. Il y a des moments où, après avoir péché, quand on voit vraiment que Jésus revient vers soi, c'est pas nous qui... Mais il nous a interceptés. Là, il faut faire attention. Là, ne recommence plus, s'il te plaît. Je parle en connaissance de cause, parce qu'il m'est arrivé que des personnes me disent « Cette fois-ci, n'abandonne plus le Seigneur. Plus jamais. » C'était une mise en garde solennelle. Toute simple, mais solennelle. Ou une autre fois, tu mets ta vie en ordre. Pas à moitié en ordre, hein. Complètement en ordre. Hein. Et puis la personne, je ne l'ai plus jamais revue. Et puis un autre qui vient de Maastricht, au train, il vient pour 5-10 minutes ici, il repart, en stop, il reprend le train à Arlon, et me dit, continue à aimer les autres. Et pendant une quinzaine, il y en a 3 qui viennent comme ça, d'endroits différents. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ras-le-bol les autres, hein. Alors, quand Dieu vient, il faut pouvoir le reconnaître. Chapitre 3, verset 15. Et on est responsable de la façon dont on reconnaît Jésus dans sa vie. Chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, nous sommes appelés à former un seul corps, donc on n'est pas chrétien tout seul. Règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc, reconnaissant de quoi ? D'être intégré dans un corps, d'être rattaché à d'autres croyants, et c'est un appel. C'est pas une obligation. C'est pas une contrainte. C'est pas un chantage. Et la paix de Christ est dans ce corps. Si je sais que le Seigneur me donne la paix quand je suis dans ce corps, dans cette assemblée, etc., pourquoi est-ce que je crache dans la soupe et que je n'y vais pas ? Ou que je néglige cette assemblée et je ne fais rien pour cette assemblée ? Parce qu'en ne faisant rien pour cette assemblée, je ne fais rien pour moi-même et pour Dieu en même temps. Hein ? Faut pas s'y méprendre. Donc, la reconnaissance est quelque chose qui a toujours une implication concrète dans le comportement et qui a toujours une implication avec des autres et qui est toujours un branchement sur Dieu plus grand. Hein? Une réception de Dieu de plus grande valeur en soi et c'est une vie d'amour avec le Seigneur. Et la reconnaissance dans un couple... La reconnaissance des enfants et des parents réciproques, tout cela, c'est l'élévation d'une famille, d'un couple. Premier aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Donc ici, Paul rend grâce pour les autres chrétiens, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Donc vous voyez, une foi engagée, le travail de votre charité, une charité en amour actif, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Regardez, et c'est pour ça qu'il rend grâce. Parce qu'il voit, en voyant ces personnes-là, ces chrétiens-là, il voit l'édification du corps de Christ par Dieu. Il contemple l'œuvre de Dieu en même temps qu'il contemple les chrétiens. Donc c'est un regard à double valeur. Et je dirais même triple valeur, parce que Paul, en rendant grâce, s'élève lui-même dans l'amour et dans la foi. Chapitre 2, verset 13, même épître. Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ah. Voyez à quel point Paul est reconnaissant. Il est reconnaissant de ce que les chrétiens ne prennent pas la parole de Dieu, sa prédication, et la parole, comme du boniment qui sort à la télévision, ou une conversation de café de bistrot ou au boulot. Il est complètement reconnaissant à Dieu de ce que ces gens ont considéré la valeur unique et divine de l'Évangile. Et c'est une parole qui agit en vous qui croyez. C'est une parole qui est prise au sérieux et qui transforme l'individu. Et donc Paul rend grâce. Rendez grâce, les amis, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en train d'avancer un petit peu vers Dieu. Rendez grâce. Ça ne vous coûte rien. Ça n'a rien à voir avec vos problèmes, ni rien du tout. Mais rendez grâce parce que vous voyez que Dieu fait quelque chose chez un autre. Rendez grâce à Dieu. Je suis revenu vendredi du garage avec la voiture. Elle allait bien et tout. Le lendemain, elle tombe en panne. Mais ça n'est pas dû au garagiste. J'ai souvent eu des trucs comme ça dans ma vie. Il faut bien que le diable s'amuse un peu avec moi. Et ce qu'il y a, est-ce qu'il s'amusera longtemps? Je ne crois pas. Mais ce qu'il y a, la personne voulait me parler. Pourquoi? Sans doute parce qu'un jour, son mari était tombé, il s'était heurté dans une ferraille, il avait cassé une côte, il devait travailler quand on est indépendant. Il devait travailler, se mettre sous la voiture, etc. et travailler et tout avec la côte cassée, imaginez. Et quand je suis arrivé, je voyais sa souffrance sur sa figure, j'ai dit, monsieur, si vous, il y avait des autres, hein, il y a toujours des vados, venez dans votre bureau si vous voulez bien. Alors il s'est assis et je dis, je vais prier pour vous. Je vais demander au Seigneur de vous bénir, je connais votre situation, vous ne pouvez pas vous permettre de rester 2 mois parce que vous avez mal là et rien fait. Autrement, vous fermerez votre garage, vos clients iront autre part. Alors, nous allons prier. Je vais prier au nom de Jésus. Je vais prier, puis je dis, voilà, bon travail, et moi je m'en vais. 2, 3 mois, 4 mois plus tard, regardez, je vais chercher la voiture, Marie-Hélène est repartie, et l'autre, et elle tenait à me parler, je disais, la qualité de la personne, je voyais, la façon dont elle regarde. Hein, et pratiquement, elle me dit, vous savez, j'ai toujours eu des épreuves depuis que je suis petite. Je suis de Étanche, dans la Moselle, etc. Mais j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours été à la messe et je crois en Dieu. Et vous savez, je suis ici en Belgique. Eh bien, moi, où que je sois, je m'adresse à Dieu et je suis sûr d'être enfant de Dieu. Or, pour la première fois dans la région ici, quelqu'un qui habite ici me dit « je suis enfant de Dieu ». Parce que dans la tête des Gaumais, c'est un marbre, hein. Alors, j'ai été dans des régions ouvrières, Liège, Charleroi et tout ça, où les gens étaient plus simples et osaient dire des choses comme ça. Mais ici, même un chrétien, il ne va pas le dire. C'est ça qui est horrible parfois. La loi du silence et du béton. C'est quasiment de l'iniquité, ça. Dieu au placard. Alors, pratiquement, là, je l'ai regardé, j'ai écouté, et je voyais que c'était pas de la rigolade. Elle doit avoir 35 ans. Et elle m'a parlé de son mari, et tout. Alors, je lui ai parlé un peu pour les enfants. J'espère qu'on va se revoir. J'ai promis un DVD sur Jésus. Et pratiquement, je suis reparti dans l'auto en louant le Seigneur, en rendant grâce. En rendant grâce de ce qu'il faisait dans la vie de cette femme. Et quel bonheur qu'un homme et une femme pareils. qui ne sortent pas que des banalités, des bêtises quotidiennes, la courante. Hein? Et alors, pratiquement, oui, égocentrique. Et je peux prier aussi pour son mari, bien entendu. Et je comprends pourquoi son mari, quand il avait mal et que j'ai prié pour lui, s'est laissé faire. Parce qu'il a une femme déjà qui prie. Et moi, je ne le savais pas. Je comprends qu'il s'est laissé faire quand j'ai prié avec lui. Vous voyez que tout contribue à la gloire de Dieu pour la vie de ce couple où j'ai mis les pieds sans trop savoir pourquoi. Pour une voiture qu'on me dira, tu n'aurais pas dû l'acheter, hein, c'était une vieille casserole, tu n'aurais pas dû l'acheter. Et si ce couple va au ciel et ma vieille casserole, elle vaut le prix d'or. Je ne m'arrête jamais à des histoires d'amertume passagère ou des colères qui ne servent à rien. Il faut voir plus loin. La reconnaissance envers Dieu fait toujours voir plus loin. Elle fait dépasser les instants, les humeurs, les tendances de la chair. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle donne un horizon à nos esprits. Et quand on ne l'a pas, on peut être chrétien et ne voir que devant ses pieds. Pas plus loin que devant ses pieds. C'est triste. Alors, regardez tous les débuts d'épîtres de Paul. Chaque fois, il y a des actions de grâce. Même dans les épîtres, il y a plusieurs fois des actions de grâce. C'est quelque chose de profond en cet homme-là. C'est pas du rite de la religion, c'est profond. Êtes-vous profondément reconnaissant à Dieu, les amis ? Voilà. Alors, les qualités d'une reconnaissance, soit elle est nulle, soit elle est éphémère, elle ne dure pas longtemps, soit elle est épisodique, ou des fois quand j'y pense, ou quand on me le dit de le faire, soit elle est durable. On n'a pas besoin de me le dire, moi j'aime bien d'être reconnaissant à Dieu. Elle est chaleureuse, j'y mets tout mon cœur. Même si je ne dis rien à l'extérieur, tout mon cœur, c'est chaleureux. C'est vraiment tout mon être qui dit merci à Dieu. Elle est refroidie, une reconnaissance refroidie, ben oui, oui Seigneur, et puis on récite notre Père, ou on raconte un truc qu'on a déjà entendu, et puis hop, la formule toute faite, ah c'est bon, à la fois prochaine. Hein? Reconnaissance refroidie. Puis il y a la reconnaissance progressive. J'avance d'année en année, je ne savais pas dire merci à Dieu, je ne savais pas dire merci à ma femme, je ne savais pas dire merci à mon voisin, et progressivement, parce que le Seigneur met des grâces en moi et que je me laisse faire, je commence à dire merci. Je commence à me comporter autrement que les autres et avec lui, avec le Seigneur. Je commence à tout bout de champ à lui dire merci. Sur la route, à pied, ma voiture en panne, je fais du stop, je dis merci. Vous n'avez jamais fait de stop, peut-être. Vous mettez au bord de la route. Vous faites ça et vous attendez. Vous pouvez attendre 3 heures parfois. Mais vous faites ça et vous avez déjà, depuis le matin, prié. Vous faites ça. Hein? Vous avez déjà, depuis le matin ou hier, j'ai pas de voiture, Seigneur, je vais faire du stop, je te demande de diriger mon stop. Vous priez. Vous êtes là, vous priez. Je reviens aussi vite à Gomery que si j'avais mon auto. T'es déjà là, qu'elle me dit. T'es déjà là ? Alors, les amis, la reconnaissance, c'est pas un truc pour obtenir plus et plus vite, mais c'est une expérience de ce que la parole du cœur envers Dieu est entendue de Dieu. Et Dieu a des pouvoirs bien plus grands qu'on ne pense. Dans les temps de guerre et de famine, combien de gens ont résisté à la famine, ont résisté à la persécution, parce qu'ils étaient reconnaissants à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Ils étaient retournés vers le Seigneur et ils sont restés vivants à travers toutes les épreuves. Rappelez-vous ce qu'avec David, il entend 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche et lui il reste debout. Ben regardez tous les psaumes. David n'était pas meilleur que nous, mais regardez, il a loué le Seigneur. Il a tellement trouvé que c'était important qu'à un moment donné de sa vie, il y avait 6 000 chantres et musiciens. 6 000 personnes pour jouer de la musique et chanter, pour louer Dieu. l'amour de Dieu engendre la reconnaissance quand il est vrai. Donc c'est un amour grandissant, c'est un amour stable et qui devient total. Et ça peut être un amour pervers, ça peut être une reconnaissance perverse. On m'a toujours dit qu'il fallait remercier Dieu, qu'il fallait être reconnaissant. Eh bien, je vais prier. J'aurai beaucoup de bénédictions. Hein? Ah oui, je vais prier parce qu'il pleuvra sur mon champ. Je vais prier tous les jours parce que j'aurai des sous dans mon portefeuille. Je vais prier tout le temps, parce que mes enfants travailleront bien à l'école. Je vais prier tout le temps parce que je vivrai vieux. Ça s'appelle ça de la perversion. Ça, c'est un banquier qui va tirer son argent de Belgique, qui met au Luxembourg pour avoir 2-3 fois plus d'intérêt. On ne trompe pas Dieu avec une prière pervertie. Les pharisiens qui ont tué Jésus priaient comme ça. Pas de prière pervertie, les amis. La prière est sans intérêt et sans peur. La prière peut être pendant des heures silencieuses. Silencieuse, on se promène, on est tout seul dans la maison, silencieuse, et profonde, vraie. On peut être dans le bus, dans le train, avec plein de monde, et elle est silencieuse. Puis tout d'un coup, on est autre part, et on prie à voix haute. Ok ? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une meilleure prière parce qu'on fait à voix haute ou en silence. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit vraie. Vraie. Alors, prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Priez sans cesse, hein, verset 17. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ m'a appris à prier. Jésus-Christ a pris ses disciples pour aller sur la colline, la montagne. Jésus a toujours pris pour les apprendre à prier. Et c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu aime quand je lui parle. Dieu aime quand je l'aime. Dieu est heureux. Dieu est glorifié quand je lui parle. Quand je ne prie pas parce que je juge, j'ai autre chose à faire, c'est pas nécessaire, ben je ne glorifie pas Dieu. Je ne mets pas à la première place. Si Dieu était un homme, s'il était aussi crapuleux que les hommes, eh bien on ne vivrait plus. On ne vivrait plus. Il nous aurait réglé notre compte à tous. La terre n'existerait plus. Dieu est patient. Dieu est magnanime et bienveillant. Dieu attend de ses enfants de revenir vers lui, d'être reconnaissant, de prier. L'amour de Dieu est bon, il est fidèle. Il est rempli de majesté, mes amis. Prenons l'épître de Tite. Tite, après, vous allez voir, après Timothée et tout ça. Tite, hein. Tite, chapitre 2. Chapitre 2, verset 11. Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, bien oui, bien sûr, en Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Pourquoi j'ai pris ce passage? C'est parce que tout simplement, ne pas avoir de reconnaissance dans notre cœur, ça s'appelle de l'impiété. Ne pas avoir un cœur reconnaissant, ça s'appelle de l'impiété. L'impiété, c'est pas simplement, j'ai pas dit mes prières. J'ai pas dit mes prières. Mes formules? Ce que je dois faire? Non. Si j'ai manqué de piété, c'est parce que j'ai manqué de reconnaissance. J'ai manqué d'un cœur vrai, qui aime mon Seigneur et mon Dieu. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au manque de reconnaissance, au cœur refroidi, au cœur indifférent, au cœur solitaire, au cœur égocentrique, narcissique, au cœur désespéré. Elle m'invite, la grâce de Dieu, à me tourner vers un cœur qui se laisse, qui se prend à aimer Dieu. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la piété, pour moi, ce cœur tourné vers Dieu pour l'adorer, fondamentalement ne peut pas se passer de la reconnaissance. Il n'y a pas de vraie piété sans reconnaissance, les amis. Si je ne sais pas dire merci à Dieu, pauvre prière, pauvre prière. Si je vis avec les autres dans une famille sans leur dire merci, pauvre famille. Si je monte dans le bus et que je ne dis jamais bonjour au chauffeur de bus et je ne dis jamais merci, pauvre chauffeur de bus. Vous voyez Véronique qui joue là du piano. Un jour, elle avait 18 ans, elle avait fini école maternelle, primaire et secondaire. Donc 15 ans de bus, ici devant chez nous. 15 années de bus. Et les autres enfants aussi de la famille. Un jour, on voit arriver un couple bien habillé qui passe dans l'allée et qui monte avec un cadeau. Et ils habitaient Isel. C'était un chauffeur de bus. Et ils s'installent, ils viennent, ils offrent le cadeau et ils disent « Nous venons dire merci pour vos enfants qui nous ont toujours dit bonjour et merci. » Alors, il a dit « J'ai mis un carton. Dites-moi bonjour s'il vous plaît. Dites-moi merci. » Il n'y a jamais personne qui disait bonjour et merci. Mais, il n'y avait pas besoin du carton pour nos enfants. Et il le faisait. Bon, maintenant, le chauffeur de bus est venu dire merci. Mais maintenant, si vous avez régulièrement été agréable à Dieu, vous lui avez dit bonjour du fond de votre cœur, vous lui avez dit merci pour tout ce qu'il vous donne. Imaginez, vous êtes des enfants qui montaient dans le bus. Mais maintenant, vous arrivez au ciel devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire ? Tu as toujours été reconnaissant envers moi. Tu as toujours été un vrai adorateur. Viens dans mes bras. Viens. Est-ce qu'il va même attendre que je sois au ciel, décédé ? Non. Il va faire des signes dans ma vie pour me montrer qu'il est heureux. Dieu est heureux de mon attitude reconnaissante. Et est heureux de mon attitude juste, droite à son égard. Dieu fera des signes. Quand vous avez des enfants dans une société comme la nôtre, où tout est fait pour qu'ils deviennent tordus, à un moment donné, même quand vous les avez éduqués convenablement, il arrive des sales coups, où vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait est perdu. Mais Dieu, si vous êtes reconnaissant, Dieu sait rattraper vos enfants. Si vous êtes reconnaissant, que vous avez toujours eu cette attitude, à un moment donné, après quelques années d'égarement, vous voyez l'enfant qui se tourne vers Dieu. Parce que Dieu a été le chercher. Parce que Dieu a béni. L'épreuve dans la vie que nous avons, les épreuves, elles sont parfois très dures, au point on croirait qu'on va mourir. Les épreuves, Dieu les voit. Soyez reconnaissants. Vous aurez des signes de Dieu après. Pas quand vous allez l'exiger, claquer des doigts, tout ça. Non, merci. Non, on ne fait pas ça avec Dieu, on n'impose rien. Vous aurez des signes de Dieu après. Et vous allez voir que c'est sérieux, que Dieu est avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, Jésus a ce pouvoir de bénir celui qui est reconnaissant et qui est droit. Les amis, Ne doutez pas de la grandeur de Dieu. Méfiez-vous de notre bassesse, de notre péché. Méfions-nous. Et la reconnaissance, l'adoration, dans la reconnaissance, c'est la correction continuelle de notre âme. Et c'est ce qui est agréable à Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Ceci, la parole de Dieu, c'est des balises. Quand je suis au champ et que je travaille, je vois des avions qui arrivent des États-Unis ou de Paris, n'importe. Ils avancent. Et je sais que là-bas, du côté de chez Jackie, il y a deux balises, deux immenses antennes. Quand je pars chez Jackie, je les vois. Je les ai déjà montrées aux autres. Elles sont très fines, on ne les voit pas à peine. Les avions arrivent jusque-là et puis tout d'un coup, j'en ai vu un même faire demi-tour. Mais un autre, il bifurque par là, l'autre tout droit. Les balises sont posées là et à ce moment-là, ils reçoivent des ordres pour prendre une autre orientation, une autre hauteur même. Et pratiquement, quand on est au champ, on le voit, et puis il y a les avions qui viennent de Munich, de Stuttgart, je les reconnais, je sais d'où ils viennent. C'est la même chose, ils ont des autres balises. Les amis, Dieu a posé des balises pour nous. Nous sommes en chemin, nous sommes en route vers lui. La balise, elle est toujours ici. Mais l'avion qui vole, c'est comme le chrétien reconnaissant. Le chrétien reconnaissant va vers Dieu. Le chrétien reconnaissant va vers le diable. Non reconnaissant. Le chrétien amer, le chrétien qui laisse Dieu dans les oubliettes, c'est pas un chrétien. Il se comporte pas comme un enfant. C'est le diable attend celui-là. Donc les amis, la reconnaissance est formidable. Elle est le signe de votre véritable foi en Dieu. Avec une autre chose, un autre signe. Jean 13, 33, 35. On vous reconnaîtra ce signe que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen.